Bonjour à vous qui étiez là ce matin, comme à vous qui n'étiez pas là ce matin. Je vous salue bien fraternellement. Et même si c'est la première fois que vous venez, que vous puissiez vous sentir à l'aise. Nous sommes là sous le regard du Seigneur, parce que je crois que là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu de nous. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible, et si vous n'en avez pas, je vous permets de vous déplacer et d'aller vous asseoir à côté de quelqu'un qui en a une. Il est toujours bon de regarder ce que l'Écriture dit. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 15. Vous avez trouvé ? Non. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père ». L'Esprit, sous-entendu de Dieu, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière... Qu'est-ce qu'il y a marqué après ? Ah, soupir. Pour ceux qui étaient là ce matin, je vous ai dit que nous allions parler des soupirs. Donc, je regarde, je constate que la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oh, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Je vous ai dit ce matin que nous allions nous arrêter sur les soupirs. Est-ce que ça vous arrive de soupirer ? Quand on est parent, papa, maman, et qu'on voit nos enfants parfois, on le sent, on sent que ça va arriver. Et parfois, non ? Parfois, c'est même pas la peine d'attendre les enfants, ça se passe entre couples. Hein, c'est... Non, bon, ça va. Mais ça peut être aussi entre chrétiens. Hein, et parce qu'on entend un parler d'une manière qui n'est... c'est pas possible. Ça vous arrive pas, vous? Vous avez de la chance sur Saint-Agne, mais c'est formidable. Je me suis trompé d'adresse. Hein. Tant pis, je me parle à moi-même. Vous êtes d'accord? Oui. Ils vont pas dire oui quand même, non? Voilà. Cœur qui soupire. Donc, vous êtes au courant. C'est une forme d'insatisfaction. D'ailleurs, on peut avoir un soupir de joie. Ça se voit? Le visage, il est à 10h10 sur ma pendule. Puis on peut avoir un soupir de découragement. Alors là, c'est 8h20. Et quand vous saluez les gens, vous voyez à leur soupir l'heure qu'il est. Et c'est pour certains vraiment l'heure que le Seigneur accorde sa grâce. Amen. Alors, je ne sais pas quelle heure il est à votre pendule morale et spirituelle, mais je dis, Seigneur, cet après-midi, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. J'aimerais vous raconter des histoires cet après-midi. Ça ne vous gêne pas, hein? Voilà, j'avais envie, hein? Mais des histoires que j'ai prises dans l'Écriture, hein? Voilà. Et si vous ne croyez pas, vous chercherez, comme ça, vous contrôlerez, hein? Un jour... Jésus a été accueilli à Jérusalem. Puis il y avait toute la foule, tout le monde qui criait. Et il criait, il disait un mot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mot. Qui c'est qui peut m'aider? Parce que Hosanna, voilà. Alors il y a même un petit chant. Hosanna. Vous connaissez ce petit cœur? Hosanna. Vous pouvez le chanter là? Stop, vous avez tout faux. Parce qu'en réalité, vous chantez ça comme si c'était un cri de victoire. Mais c'est un soupir. Ça veut dire de grâce. Sauve, viens à mon secours. Comme quoi, parfois, vous savez, on chante des choses comme ça. De grâce, Seigneur, fais du bien à ma vie, fais du bien à la vie de chacun. Que ce soit l'expression d'un véritable soupir. D'ailleurs, le Seigneur est arrivé et aussitôt il est rentré dans le temple. Et quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu ce qui se passait dans le temple, il a fait un soupir. Je sais, c'est pas marqué comme ça, mais dans ma tête, je le vois comme ça. Ce que je sais, c'est qu'il a pris un fouet qui s'est fabriqué sur place. Très belle couleur, hein. Et il a chassé. Il a chassé. Ouloulo, il y avait des animaux qui circulaient pour vous dire, vous imaginez un instant là dans l'église des bœufs, non, mais si, les pièces de monnaie qui roulaient par terre, c'était. Et là le Seigneur va faire quelque chose assez particulier. Et le mot Hosanna revient à nouveau, parce qu'à la porte du temple, il y avait des aveugles et des boiteux qui étaient restés à l'extérieur, eux, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer. À l'époque des Jébusiens. Alors que David voulait s'emparer de la cité, que l'on a appelée plus tard Jérusalem, les Jébusiens se sont moqués de David et lui ont dit « Même les aveugles et les boiteux t'empêcheront de rentrer. » Et ce jour-là, David avait dit « Ce sera comme une loi, jamais plus l'aveugle et le boiteux n'entreront dans le temple. » Première chose que fait Jésus, il guérit les aveugles et les boiteux. C'est pour eux qu'il dit « Hosanna. » Dans un soupir profond, je veux, Seigneur, qu'il soit sauvé. Et le Seigneur, je veux te sauver. Et vous remarquerez que le premier miracle dans les actes des apôtres, au moment où Pierre et Jean montent, c'est un boiteux. Et il va rentrer dans le temple, sautant de joie. Pourquoi ? Parce que c'est la liberté en Jésus-Christ, quel que soit le problème, quelle que soit l'interdiction, quel que soit le poids de culpabilisation, le drame d'une vie, quand Christ libère, alors il a franchi et nous sommes réellement libres. Amen. Oh, bien sûr, quand Jésus avait dit ça, les pharisiens, les religieux, avaient dit, écoute, tu dois te tromper d'adresse parce que nous sommes, nous, les fils d'Abraham. En clair, en traduction Aujourd'hui, on dirait, tu te trompes d'adresse, on est pentecôtiste. Le Seigneur leur dit, mais je ne vous demande pas de quelle religion vous êtes. Quiconque se livre encore au péché est esclave du péché. Je ne vous demande pas la couleur de l'étiquette, mais je voudrais que vous soyez libre. Hosanna, sauve de grâce. Et c'est ce soupir que j'aimerais partager avec vous quelques instants. J'essaye depuis tout à l'heure, et je fais un effort, croyez-le bien, j'essaie de retrouver la pendule. Qui a pris la pendule? Je voulais rester, j'ai pas de montre, donc tu me fais signe quand il me reste 5 minutes. Qu'il est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Job, dans sa souffrance, dit « Mes soupirs sont ma nourriture ». Et vous savez, quand l'angoisse est là et que les autres ne comprennent pas parce que les autres, je ne dis pas qui, ne comprennent pas toujours quelqu'un qui souffre. Qui peut comprendre la souffrance? Comme l'esclave soupire après l'ombre, j'ai pour l'eau la souffrance et je soupire après le repos, dit-il encore. Mes années se consument dans les soupirs. Mes soupirs ne te sont point cachés, dit le psalmiste, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous connaissez bien. Ne ferme pas, dit Jérémie, le prophète, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs. Et lorsque le Seigneur va exprimer pour cet aveugle, ce sourd, pardon, le message de délivrance, il va soupirer, Ephphatha, ouvre-toi. Et j'aimerais bien que le Seigneur me parle, pas vous peut-être aussi, et avec cette douceur qui caractérise la voix de notre Seigneur, qu'il puisse ouvrir notre cœur et prononcer ces mots Ephphatha, le message de délivrance dont nos vies, nos cœurs ont besoin. Et j'ai noté comme vous 3 soupirs dans le texte que nous avons lu. Et qui en premier soupire, vous l'avez noté, qui c'est? C'est la nature. Eh oui, le premier soupir au verset 22, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. On se demande pourquoi l'apôtre Paul nous parle de la nature, parce que cet après-midi, ce n'est pas les arbres qui importent pour nous, on est venu avec nos problèmes. Rappelez-vous, la création, ça a d'abord été la nature. Rappelez-vous, dans le jardin, un paradis. Avec l'accès à l'arbre de vie, interdiction à celui de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de la désobéissance, les chérubins ont interdit. C'est là la nature. Et on retrouvera dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc il y a un élément, la nature, vous allez me dire quand même, oui. La nature, dit Paul, ne nous enseigne-t-elle pas? Et Jésus a dit, regardez le soir le soleil, et regardez dans les derniers temps, le soleil s'obscurcira, et par reflet, la lune ne donnera plus sa lumière. Il y a là toute une force d'enseignement sur les temps de la fin. Et nous avons là quelque chose d'important. La nature qui dit qu'elle est au service, sous la servitude de la corruption, de la pollution. Est-ce possible? Quand vous croquez une pomme, rien à voir avec Adam et Ève. Quand vous croquez une pomme, vous l'essuyez bien? Entre 15 et 30 traitements chimiques, elle a subi. C'est bon. On mord à pleines dents. Quand l'Écriture nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, un tiers de la terre sera brûlé. Oh, je sais qu'on est déjà arrivé au sceau, à l'ouverture des sceaux, mais il y a déjà une amorce qui nous interpelle. Un tiers des arbres périssent, un tiers des poissons dans la mer, et nous y sommes. Et je dis, Seigneur, la terre soupire. Je ne me contente pas d'une lecture, d'une philosophie religieuse. Il y a un signe. Jésus n'a pas eu peur de dire, regarde ce figuier, il te parle. Et il y a des éléments qui nous entourent quand on sait, et une recherche des 2 dernières années montre que la majorité des cancers sont dus aux traitements qui sont faits sur la nature. Et là, d'un seul coup, on se sent concerné, parce que ça touche nos corps. Seigneur, tu nous alertes. Nous sommes dans des temps particuliers. Il n'est pas question de faire une politique sur la pollution et l'écologie, mais une réflexion sur les temps dans lesquels nous sommes. Et si la nature soupire, et l'Écriture est claire, soupire tout entière et souffre les douleurs de l'enfantement, c'est parce que si la nature ne s'exprime pas verbalement, elle espère au nouveau ciel et à la nouvelle terre. La nature a son espérance. Parfois, nous, nous nous lamentons, Paul dit, la tente où nous gémissons, où nous rouméguons. Et vous savez, quand on en arrive même en tant que chrétien, à murmurer, ça rappelle des souvenirs du peuple d'Israël dans le désert. Il n'y avait qu'eux seulement qui murmuraient. Nous aujourd'hui, surtout nous Français, on ne sait pas ce que c'est le murmure et la contestation. L'apôtre Paul plante le décor d'abord avec la nature, comme pour dire attention, éveillé. Ce matin, ça a été l'éveil et le réveil. Oui? C'est pas la sieste, là, hein? On est d'accord, hein? Bon. Mais au verset 23, ce n'est pas elle seulement, donc il est bien question de la nature, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. C'est-à-dire qu'en espérance, nous croyons au nouveau ciel, à nouvelle terre, mais nous croyons que nous allons fêter les noces de l'agneau. Quel bon repas! Quel repas extraordinaire! Vous pourrez manger dans la gloire de Dieu sans craindre que ce qui sera sur la table soit pollué. Tranquille. Mais quel repas d'amour! Mais en attendant, c'est en espérance, dit l'apôtre Paul, et nous soupirons parce qu'il y a là 2 éléments. Il y a tout d'abord la notion d'adoption, comme fils, comme fille, et puis la notion de rédemption, le prix payé. Et le soupir, pour celui qui n'a pas la paix, qui n'a pas la certitude dans son cœur, ou qui, peut-être, a pris du recul comme le fils prodigue. Oh, le vilain! Mais pour le frère aîné, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Parce qu'il est resté dans la cour, alors que le jeune, il est revenu dans la maison. Et je me dis, Seigneur, c'est pas ma place dans l'Église qui est importante. C'est que tu sois présent dans mon cœur. Parce qu'alors, quelle que soit la pollution, la situation, le problème, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es là. J'ai discuté longuement avec votre pasteur Gérard Gault, et pour être passé par des moments difficiles au niveau cardiaque, quand il y a des moments où on a l'impression qu'on va partir avec le Seigneur, que c'est extraordinaire la paix qui est dans nos cœurs. Le regret, le soupir, c'est ce que nous laissons. Et cette force, le Seigneur veut la mettre dans nos vies. Nous sommes sauvés en espérance, mais le Seigneur met déjà la paix dans notre cœur. Parce que si aujourd'hui, vivre la vie chrétienne, c'est pas facile d'être enfant de Dieu, hein. Avec la sœur Germaine, et personne s'appelle Germaine, j'espère. Je prends des risques, pardonnez-moi. Mais d'avoir cette paix dans son cœur. Et le Seigneur nous regarde, moi j'aime bien parce que j'ai envie de parler avec lui, et lui parle avec moi. Parce qu'il y a des choses qu'on peut exprimer quand on est ensemble comme ça, je ne peux pas tout vous dire, mais il nous dit quand tu pries, rentre dans ta chambre. Et là tu pourras paisiblement exprimer par tes soupirs ce qui pèse à ton cœur. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Et là, il ajoute tout simplement « Et ton Père qui est là ». Pas l'article, hein ? L'adverbe. Elle a accent grave. C'est pas grave. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Et je m'arrête un instant parce que ce soupir, nous, d'espérance, je voudrais cet après-midi que nous soyons enfants de Dieu ou que nous soyons là pour la première fois, j'aimerais que vous saisissiez cette réalité, Dieu est là. Alors on peut le dire, on peut le savoir, mais il faut parfois être confronté à des situations, des circonstances difficiles pour dire « Seigneur, j'ai besoin de réaliser cette force ». Parce que tu n'es pas là parce que je te le dis, parce que je l'ai appris par cœur, mais tu es là parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et quand Salomon a reçu de la part de Dieu l'ordre de construire le temple, à un moment donné, Salomon, il a fait une prière, puis il a dit, il était sage, hein. Dieu, Dieu des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie de mes mains. Alors, ô Dieu, sois présent dans cette maison et que tes yeux soient toujours là et que ton nom soit toujours là. C'était la prière de Salomon. Et vous savez ce que répond Dieu, parce que Dieu a répondu à sa prière, ça c'est formidable, hein ? Il lui dit, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et je voudrais que cet après-midi, tu me le dises à nouveau. Toi, Seigneur, tu as eu besoin que ton Père te dise, à un moment difficile, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Tu es son enfant. Je suis son enfant. Et c'est une force quand le Seigneur nous dit qu'il sera là. Avec ses yeux pour veiller et son cœur pour nous aimer. Vous savez, le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, aujourd'hui les pasteurs ou les prêtres n'ont plus ce costume avec des clochettes dans le bas de la robe, hein. Mais il avait sur ses épaulettes des pierres précieuses et sur chacune de ces pierres, il y avait le nom de chaque tribu. Et de savoir que le Seigneur veut nous porter sur ses épaules, porter nos fardeaux. C'était la première image du sacrificateur. Et la deuxième, c'est sur le pectoral, sur le cœur, il y avait à nouveau les pierres. Non seulement je veux porter tes fardeaux, mais la raison, c'est parce que je t'aime. Et je ne t'aime pas parce que tu es le meilleur, mais parce que tu fais partie de ma création. La nature, mais aussi l'homme, la femme, l'enfant, Dieu aime. Et il ne voudrait qu'aucun ne périsse. Tout à l'heure, quelqu'un a cité ce texte de Jean 3,16. Il voudrait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je le crois. Et c'est pour cela que personne ne se sente à l'écart et dise « Oui, mais avec ce que j'ai fait, non !» Les hommes sont capables de pointer du doigt devant même une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez ce texte ? D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'ils ont surpris la femme, mais pas l'homme. Moïse, selon la loi, dit qu'il faut lapider. Oh, le Seigneur n'a pas approuvé le péché de cette femme, mais on ne sait pas dans quelles circonstances elle en est arrivée là. Ce que je sais, c'est que le Seigneur, lui, s'est penché sur le sol, il a écrit par terre, et je suis allé en Israël et je n'ai pas trouvé la trace. Mais le prophète Jérémie dit, celui qui abandonne la source d'eau vive sera inscrit sur la terre. Moi, je n'ai pas envie, Seigneur, que tu inscrives mon nom sur le sol. Mais je voudrais, Seigneur, avoir cette paix que tu inscris mon nom dans le livre de vie. Mon Père, il est là et il veut mettre des certitudes dans ton cœur. Il veut que tu repartes avec cette certitude qu'il t'aime et qu'il veut t'aider dans tes difficultés et dans tes problèmes, que son nom soit béni. Amen. Mais à quel prix? Non seulement l'adoption, être fils. La lumière, je l'ai cité ce matin et vous le connaissez, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu Christ, lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, quand un jour j'ai dit à mes amis, j'ai rencontré Christ, ils m'ont dit, ça y est, il est malade. Parce qu'ils connaissaient ma vie passée. Et ceux qui me connaissaient, les miens, ma famille, ils ont dit, c'est pas possible, il nous fait la comédie, il nous joue un tour. Mais quand le Seigneur fait les choses, il les fait bien. Et ça demeure. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacune de notre vie. Que son nom soit béni. Pourquoi cette force? Pourquoi cette autorité? Pourquoi ce pouvoir? Je reste sur ce mot. Il est là. Et ton Père qui est là. Et le prix, c'est parce qu'un jour Christ a accepté dans l'obéissance à son Père d'être là crucifié entre deux brigands. L'Écriture nous dit, ils le crucifièrent là. Cette force de la présence de Dieu dans nos vies n'est pas le fait du hasard. Mais au moment où Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré comme pour nous laisser une libre entrée dans la présence de Dieu. Et je peux cet après-midi simplement dire, tu es là Seigneur, parce que Christ a triomphé au prix de sa vie. Mais là n'existait plus, quand les femmes sont allées au tombeau, il n'était plus là dans le tombeau. Le là était supprimé, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Amen. Et ça, c'est formidable. Quelle est la tempête de ta vie? Quelle est la situation difficile? Nous soupirons après des victoires. Nous soupirons après des délivrances. Nous soupirons après des situations réglées. Regardez les disciples, spécialistes, des pêcheurs confirmés. Ah, pour ramer, ça rame. Pourtant, Jésus était au fond de la barque. Vous connaissez ce texte? Et il n'était pas au fond n'importe où, il était au fond à l'arrière du bateau. Moi, généralement, le bateau penche plus à l'arrière qu'à l'avant, sinon ça va poser problème à un moment donné. Jésus était couché à l'arrière et les disciples ramaient. Discussion des disciples. Il y a la tempête, il y a du vent, ça se déchaîne, on va couler et lui, il dort. Pas content, hein, les disciples. Je ne sais pas si vous vous êtes endormis dans la baignoire avec de l'eau froide. Non. À un moment donné, vous pensez vraiment que Jésus dormait? Jésus est là, au même niveau que nos situations difficiles. Et dans le fond de votre barque, il est là, pour me dire et pour te dire, je comprends ta situation et je veux t'aider. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il a été tenté, il a souffert. Il est là au niveau de notre situation. Et non seulement il peut comprendre, mais il veut nous aider, que son nom soit béni. Amen. Et alors il sort du fond de la barque, comme s'il avait passé une bonne sieste, et il va calmer la tempête. Seigneur, nous sommes trop souvent incrédules, alors que toi tu veux nous aider au sein même de nos difficultés. Que son nom soit béni. La nature soupire. Moi, je soupire. Mais il y a un troisième soupir. Vous ne l'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Et je voudrais terminer par ce point. Il est dit, verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Quand nous sommes au bout, quand il ne nous reste plus que les larmes, le psalmiste dit « Dieu entend la voix de nos larmes ». Quand nos mots ne suffisent plus, l'Esprit de Dieu va intercéder par des soupirs. Et je peux être là devant toi, Seigneur, à bout du rouleau, mais si je tourne vers toi les regards, alors tu vas chasser la honte de ma faute, tu vas chasser la crainte et la peur, et tu vas exaucer ma prière. Moi, je le crois. J'ai l'occasion de faire de temps en temps des cultes avec quelques malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Si vous saviez la joie, quand tout à coup la fenêtre s'ouvre, vous savez ce que ça veut dire? Alors que le regard est dans le vague, alors qu'il n'y a rien, d'un seul coup, comme si quelqu'un ouvrait la fenêtre, et quand vous voyez d'un seul coup la bouche qui s'ouvre, gloire à Dieu, loué soit le Seigneur. Ça dure 15 secondes, 30 secondes, puis la fenêtre se ferme à nouveau. Je dis, Seigneur, ton esprit est là par des soupirs inexprimables, et tu sais, et tu sais. Je me souviens, j'avais l'habitude, quand on était jeunes mariés, on est jeunes mariés avec mon épouse, on va fêter bientôt nos 44 ans, je sais qu'il y en a plusieurs qui me battent. Mais moi, je suis toujours content, donc chaque fois, je fête. D'ailleurs, là, j'ai dit, oh, cette année, on ne va rien fêter, mais tous mes enfants ont dit, que tu fêtes ou tu ne fêtes pas, nous, on vient fêter. Donc, je vais avoir tout le monde dans la maison. Et quand on était jeunes mariés, il m'arrivait, vers 11h30, midi moins le quart, j'ouvrais la fenêtre, de la cuisine, je regardais dans la rue. Et si je voyais un clochard ou un, comme on dit aujourd'hui, un SDF ou un... Parce qu'autrefois, c'était bien. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux pauvres, on ne sait pas vraiment les dessiner. Parce qu'ils peuvent nous côtoyer, même dans l'église. Et j'avais pris l'habitude, d'ailleurs, souvent ma femme me tirait j'ouvrais la fenêtre, je faisais « T'as faim ?» Et l'autre qui passait, il faisait « Oui ?» Bien. Je ne mettais pas un évangile dans le sandwich. Je mettais du jambon et du beurre. Et ce jour-là, j'avais partagé mon steak avec mon épouse, puis j'avais donné le mien à ce gaillard qui semblait vraiment avoir faim. Et pendant qu'il mangeait, je lui disais « Jésus vous aime. » Mangeait sa purée, lui. Il me casse les pieds avec son Jésus. Moi, j'ai faim. Alors, je me souviens de ce jour-là, j'avais... Seigneur, je sens que moi, je ne peux rien lui dire, mais toi, tu peux. Toi, tu peux. Alors, j'ai réussi à lui glisser l'évangile dans la poche, puis je lui ai dit, il faudra le lire. Hein. Et il est parti. Il y a quelques mois de cela... Quelqu'un me voit et me dit, on était dans un certain lieu, Monsieur Roussel, oui, je vous connais, ah, oui, il y a 33 ans, vous m'avez donné votre beefsteak, et vous avez partagé le vôtre avec votre femme. J'ai lu l'Évangile, c'est le Seigneur qui m'a bouleversé. Mon cœur a été touché, je lui ai donné mon cœur. Et ce qu'il a fait pour moi, j'ai voulu le faire pour les autres. Aujourd'hui, je suis pasteur. Votre collègue. Je n'avais que soupirer. Mais je crois que le Saint-Esprit a fait le travail. Et vous savez, je me suis trouvé dans des situations difficiles. Je ne cherche pas à caresser mon ego, mais je me suis trouvé dans des situations, disons, difficiles. Je me souviens, une fois, il y a un chrétien, un ancien, qui me disait, mais vous dites rien. Et j'ai répondu, mais j'ai rien à dire. Il y a de ces situations, les mots sont trop fragiles, au risque même de commettre des erreurs. Et je suis plus dans le soupir, parce que je crois que l'esprit, par des soupirs inexprimables, peut intercéder en faveur de ceux qui crient. Et je voudrais vous dire que si mes paroles ne peuvent pas vous convaincre, je crois que le Saint-Esprit peut parler à votre cœur et vous dire directement de la part de Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille, ou bientôt tu vas l'être. En toi j'ai mis tout mon amour. Seigneur, puisses-tu le dire avec simplicité? C'est pas facile. Parfois, on est dans une situation, nous on connaît des textes tout près, hein? On est parfois même des distributeurs automatiques. Tac, une pièce de prière et flac, 5 promesses. Et parfois, on ne connaît pas celui qui sonde les cœurs. C'est Dieu. Celui qui connaît ce qu'il y a là, au fond. Un jour, quelqu'un me dit, il faut aller voir tel couple, ils sont, c'est la panade. Ils veulent se suicider. Et j'arrive dans la maison et il y avait une femme qui pleurait. J'ai dit, écoutez, j'aimerais parler avec vous. Je ne sais pas comment commencer. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Et j'ai dit, mais votre mari est déjà avec quelqu'un, peut-être que... Parce que je l'entendais parler. Elle me dit, non. Le psy lui a dit qu'il fallait qu'il parle. J'y parle à qui? Au mur. Oui, mais... Et là, j'ai regardé et j'ai pleuré avec cette femme en lui disant, vous savez, le Seigneur, lui, il peut faire ce miracle. Et je me souviens qu'on est rentré avec son épouse et on a vu son mari qui nous a regardés. Puis on a prononcé que quelques mots, mais des mots simples. Il en était dans un état de décalcification qu'il m'a montré, il cassait ses dents. Il était dans un état de dépression totale. Et j'ai dit, Seigneur, touche-le, guéris-le. Je ne peux pas le faire. Mais vous savez où je l'ai dit? Là, dedans. Parce que je n'avais que mon soupir. Et le Seigneur a fait grâce dans les jours qui ont suivi. Le couple a été béni par le Seigneur. Il est sorti de la dépression. Le Seigneur l'a guéri de la décalcification, alors qu'on ne peut pas regagner. Mais le Seigneur a fait le miracle. C'est lui. Je suis démuni, mais il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. L'Esprit intercède. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage, me parle à moi, à mon esprit, et me dit, tu es mon enfant. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Et ce soupir, vous pouvez l'exprimer à Dieu, parce que le Saint-Esprit lui-même veut l'exprimer à votre cœur. Que son nom soit béni. Je voudrais vous donner un témoignage. Peut-être que je vous l'ai donné déjà, mais j'ai eu l'occasion de faire des camps d'ados et des colos, ça remonte depuis des années. Et il y a quelque temps, je suis allé dans les îles dans le Pacifique, à Rurutu, les îles australes, c'est bien loin d'ici. Et on avait accueilli une trentaine d'ados. Oh, pas nos chers ados mignons, quoique. Et quand on a essayé de voir un petit peu l'origine et le vécu des uns et des autres, on s'est rendu compte que les deux tiers avaient été victimes d'inceste. La majorité était plongée dans l'alcool, les sciences occultes. Et quand j'ai commencé à vouloir leur dire que Jésus les aimait, ça les a fait rire. Et ben, j'ai dit, c'est pas gagné. Les animateurs m'ont dit, on n'est pas... Alors, je les ai dit aux animateurs, il faut jouer, activité, pour essayer un peu de les calmer, hein. Et puis ils m'ont donné 7 minutes pour leur parler. Ça leur suffisait. Et ça a duré 15 jours. Et pendant 15 jours, j'avais 7 minutes. Et pendant 15 jours, j'aurais parlé. À rien. Vous savez, quand vous faites un camp d'ado, rien. Je disais, Seigneur, quand je rentrais dans la chambre, Seigneur, fais grâce. Là, je soupirais. Hein. Mais Seigneur, fais quelque chose, tu es le Dieu des miracles, je t'ai connu, je t'ai ceci, je t'ai... Puis le dernier soir, je leur ai dit, parce que le Seigneur avait parlé à mon cœur, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais vous ne le répétez pas. Hein. J'ai dit aux animateurs, vous allez me récupérer du pain au lait de coco. Ah bon ? Et vous allez me récupérer du jus de raisin. Et là, il y en a qui fait, ah non, tu leur donnes pas la Sainte-Seine. Vous voyez un petit peu le... Mais je dis, il n'est pas question de la Sainte-Seine. Et le soir, on a mis les pains sur la table, puis je leur ai expliqué ce que Jésus disait au sujet du pain. Ce n'était pas la Sainte-Seine, je vous rassure, hein, n'allez pas dire que j'ai donné la Sainte-Seine à des ados qui étaient dans un état de... Sinon, j'ai soupiré, hein. Puis j'aurais dit, mais vous pouvez manger ce pain si vous croyez que Christ, qui a donné sa vie, est capable de calmer vos douleurs, vos souffrances, et vous amener à pardonner à ceux qui vous font du mal. Or là, j'ai l'impression qu'ils avaient tous les mains dans les poches. Ils peuvent se le manger, son pain. Jusqu'à un moment où il y a un ado qui s'est mis à pleurer, qui a pris du pain. Puis 2, puis 10, puis 15. J'ai commencé à les entendre. Pardon, Seigneur, guéris mon cœur. Vous vous rendez compte ? Le travail. Puis après, je leur ai dit, maintenant vous allez prendre le jus de raisin. Alors mes braves animateurs, ils ont regardé, mais c'est pas possible, ils leur donnent la Sainte-Seine. Et j'ai dit, Seigneur, vous allez dire, Seigneur, tu laves mes péchés. Mais tu vas aussi laver les fautes, les erreurs de mes parents ou de ceux qui sont à l'origine de mes souffrances. Et là, il a fallu du temps, puis à un moment donné, à nouveau le Seigneur a fait grâce. Mais tout se passait dans un silence et un soupir. Et ils ont pris les uns après les autres le jus de raisin. Puis on a terminé. Les animateurs ont dit, t'aurais dû faire un appel. On ne fait rien. C'est le Saint-Esprit qui a commencé à intercéder. Je vais le laisser tranquille. Il fait son travail. Parce que je crois à l'action du Saint-Esprit. Cette délicatesse. Et puis, on est reparti. On a pris l'avion. Il y avait 3 heures d'avion. Puis, on est arrivé à l'aéroport à Papeete. Et là, dans l'aéroport, il n'y a qu'en Polynésie qu'on voit ça dans l'aéroport. Il y a marqué « Dieu est amour ». Il y avait les parents qui attendaient les adolescents. Et là, j'ai vu les ados embrasser leurs parents, se réconcilier, se repentir dans l'aéroport. Ça, c'est le Saint-Esprit qui agissait. Je ne peux pas changer votre vie. Je ne peux pas vous enlever l'amertume ou des racines parce que dans votre cœur, il y a des blessures qui remontent peut-être à l'enfance. Je ne peux pas vous les enlever. Mais le Saint-Esprit peut le faire et veut le faire. Le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercédera en votre faveur parce que c'est selon Dieu qu'il connaît votre cœur et il veut vous donner le meilleur. Et j'ai envie de dire, Seigneur, bientôt tu vas le faire. Vous voulez pas dire, Seigneur, tu vas le faire. J'aimerais que pendant quelques instants, peut-être vous pensez à quelqu'un, peut-être vous êtes ce quelqu'un. J'aimerais que quelques instants, nous soyons dans le recueillement. Et si quelqu'un a besoin, pardonnez-moi, je vais faire l'appel. Si quelqu'un a besoin, qu'il vienne simplement sur le devant. Oui, je vous demande, faites ce pas. Je demanderai à mes frères ou les anciens ou les pasteurs de s'approcher et de prier pour ceux qui vont venir, peut-être pour dire, je ne sais pas comment faire, ça fait des mois, des années que j'ai des rancœurs, des amertumes, je n'ai pas mon cœur dans la paix et je ne suis pas en paix. Mais je voudrais, Seigneur, faire ce pas. Si vous n'osez pas venir sur le devant, levez-vous simplement à votre place. Si vous ne voulez pas vous lever, levez la main. Mais exprimez, pas devant moi, peu importe si je vous vois ou vois pas, mais exprimez votre volonté. Et je vais demander aux frères de se lever, d'aller prier avec vous. Certains lèvent la main, allez-y. Levez-vous pour qu'on vous voit bien. Seigneur, dans ta grâce, pose ta bonne main sur ceux qui en cet instant soupirent après ta grâce. Tu sais ceux qui sont venus cet après-midi, Seigneur. Et si je ne peux pas, moi, lire dans les cœurs les soucis, les peines, les drames, les blessures, toi, tu le sais. Et tu veux, avec cette douceur qui caractérise l'action de ton esprit, et cet esprit de Dieu révèle la présence de Christ dans toute sa miséricorde et sa compassion. Seigneur, tu bénis ces vies. Ne vous occupez pas de qui vient vers vous, mais une main va se poser sur votre épaule, sur votre tête. Mais qu'il y ait cette liberté. Je demande aux anciens d'aller vers, prier simplement au nom de celui qui a compassion de notre vie. Pose ta main, Seigneur. Guéris des corps malades. Libère des vies qui sont sous l'emprise de l'ennemi et de la puissance de l'ennemi. Brise les chaînes. Brise les verrous, Seigneur. Je ne peux pas. Pierre dit, je n'ai rien. Ce n'est pas ma piété. Ce n'est pas ma force. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il y ait cet après-midi une grâce sur ta vie. Sur ton être. Seigneur, tu bénis en cet instant. Et j'aimerais que ceux qui sont dans le recueillement intercèdent pour que la grâce de Dieu se pose avec force sur chacune de nos vies. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Oh, sois béni, Seigneur. Sois loué. Sois adoré. Jésus-Christ est vainqueur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. La nature soupire. Mon âme soupire. Mais l'Esprit, avec force, intercède en ta faveur par des soupirs inexprimables. Que le nom du Seigneur soit béni. Celui qui est Seigneur, mais celui qui est ton Père et qui veut que tu sois son enfant. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Hosanna, sauve de grâce.